Quelques habitués se coulèrent familièrement dans l'assemblée, ainsi que deux ou trois fils de famille timides, silencieux, parés comme des châsses, heureux d'avoir été conviés à cette solennité littéraire. Toutes les femmes se rangèrent sérieusement en un cercle derrière lequel les hommes se tinrent debout. Cette assemblée de personnages bizarres aux costumes hétéroclites, aux visages grimés, devint très imposante pour Lucien, dont le cœur palpita quand il se vit l'objet de tous les regards. Quel cardi qu'il fût, il ne soutint pas facilement cette première épreuve malgré les encouragements de sa maîtresse, qui déploya le faste de ses révérences et ses plus précieuses grâces en recevant les illustres sommités de Langoumois. Le malaise auquel il était en proie fut continué par une circonstance facile à prévoir, mais qui devait effaroucher un jeune homme encore peu familiarisé avec la tactique du monde. Lucien, tout yeux et toute oreille, s'entendait appeler monsieur de Rubempré par Louise, par monsieur de Bargeton, par l'évêque, par quelques complaisants de la maîtresse du logis, et monsieur Chardon par la majorité de ce redouté public. Intimidé par les œillades interrogatives des curieux, il pressentait son nom bourgeois au seul mouvement des lèvres. Il devinait les jugements anticipés qu'on emportait sur lui avec cette franchise provinciale souvent un peu trop près de la politesse. Ses continuels coups d'épingle inattendus le mirent encore plus mal avec lui-même. Il attendit avec impatience le moment de commencer sa lecture, afin de prendre une attitude qui fît cesser son supplice intérieur. Mais Jacques racontait sa dernière chasse à Madame de Pimentel. Adrien s'entretenait du nouvel astre musical de Rossini avec Mademoiselle Laure de Rastignac. Astolphe, qui avait appris par cœur dans un journal la description d'une nouvelle charrue, en parlait au baron. Lucien ne savait pas, le pauvre poète, qu'aucune de ses intelligences, excepté celle de Madame de Bargeton, ne pouvait comprendre la poésie. Toutes ces personnes privées d'émotion étaient accourues en se trompant elles-mêmes sur la nature du spectacle qui les attendait. Il y a des moquis, semblables aux trompettes, aux cymbales, à la grosse caisse des saltimbanques, attirent toujours le public. Les mots beauté, gloire, poésie ont des sortilèges qui séduisent les esprits les plus grossiers. Quand tout le monde fut arrivé, que les causeries eurent cessé, non sans mille avertissements donnés aux interrupteurs par monsieur de Bargeton, que sa femme envoya comme un suisse d'église qui fait retentir sa canne sur les dalles, Lucien se mit à la table ronde, près de Madame de Bargeton, en éprouvant une violente secousse d'âme. Il annonça d'une voix troublée que, pour ne tromper l'attente de personne, il allait lire les chefs-d'œuvre récemment retrouvés d'un grand poète inconnu. Quoique les poésies d'André de Chénier y aient été publiées dès 1819, personne à Angoulême n'avait encore entendu parler d'André de Chénier. Chacun voulut voir dans cette annonce un biais trouvé par Madame de Bargeton pour ménager l'amour-propre du poète et mettre les auditeurs à l'aise. Lucien lut d'abord le jeune malade, qui fut accueilli par des murmures flatteurs. Puis l'aveugle, poème que ses esprits médiocres trouvèrent long. Pendant sa lecture, Lucien fut en proie à l'une de ces souffrances infernales qui ne peuvent être parfaitement comprises que par de misants artistes, ou par ceux que l'enthousiasme et une haute intelligence mettent à leur niveau. Pour être traduite par la voix, comme pour être saisie, la poésie exige une sainte attention. Il doit se faire, entre le lecteur et l'auditoire, une alliance intime, sans laquelle les électriques communications des sentiments n'ont plus lieu. Cette cohésion des âmes manque-t-elle? Le poète se trouve alors comme un ange, essayant de chanter un hymne céleste au milieu des ricanements de l'enfer. Or, dans la sphère où se développent leurs facultés, les hommes d'intelligence possèdent la vue circonspective du colimaçon, le flair du chien et l'oreille de la taupe. Ils voient, ils sentent, ils entendent tout autour d'eux. Le musicien et le poète se savent aussi promptement admirer ou incompris qu'une plante se sèche ou se ravive dans une atmosphère amie ou inconnue. Les murmures des hommes, qui n'étaient venus là que pour leurs femmes et qui se parlaient de leurs affaires, retentissaient à l'oreille de Lucien par les lois de cette acoustique particulière. De même qu'il voyait les hiatus sympathiques de quelques mâchoires violemment entrebâillées et dont les dents le narguaient. Lorsque, semblable à la colombe du déluge, il cherchait un coin favorable où son regard put s'arrêter, il rencontrait les yeux impatientés de gens qui pensaient évidemment à profiter de cette réunion pour s'interroger sur quelques intérêts positifs. À l'exception de Laure de Rastignac, De deux ou trois jeunes gens et de l'évêque, tous les assistants s'ennuyaient. En effet, ceux qui comprennent la poésie cherchent à développer dans leur âme ce que l'auteur a mis en germe dans ses vers. Mais ces auditeurs glacés, loin d'aspirer l'âme du poète, n'écoutaient même pas ses accents. Lucia éprouva donc un si profond découragement qu'une sueur froide mouilla sa chemise. Un regard de feu lancé par Louise vers laquelle il se tourna lui donna le courage d'achever. Mais son cœur de poète saignait de mille blessures. « Trouvez-vous cela bien amusant, Fifine ?» dit à sa voisine la sèche Lily qui s'attendait peut-être à des tours de force. « Ne me demandez pas mon avis, ma chère. Mes yeux se ferment aussitôt que j'entends lire. J'espère que Naïs ne nous donnera pas souvent des vers le soir, » dit Francis. « Quand j'écoute lire après mon dîner, l'attention que je suis forcée d'avoir trouble ma digestion. »«
Pauvre chat !» dit Zéphirine à voix basse. « Buvez un verre d'eau sucrée !»«
C'est fort bien déclamé, » dit Alexandre, « mais j'aime mieux le whist. » En entendant cette réponse, qui passa pour spirituelle à cause de la signification anglaise du mot, quelques joueuses prétendirent que le lecteur avait besoin de repos. Sous ce prétexte, un ou deux couples s'esquivèrent dans le boudoir. Lucien, supplié par Louise, par la charmante Laure de Rastignac et par l'évêque, réveilla l'attention, grâce à la verve contre-révolutionnaire des Landes, que plusieurs personnes, entraînées par la chaleur du débit, applaudirent sans les comprendre. Ces sortes de gens sont influençables par la vocifération comme les palais grossiers sont excités par les liqueurs fortes. Pendant un moment où l'on prit des glaces, Zéphirine envoya Francis voir le volume et dit à sa voisine Amélie que les vers lus par Lucien étaient imprimés. « Mais, répondit Amélie avec un visible bonheur, c'est bien simple, monsieur de Rubempré travaille chez un imprimeur. C'est, dit-elle en regardant Lolotte, comme si une jolie femme faisait elle-même ses robes. Il a imprimé ses poésies lui-même, se dirent les femmes. Pourquoi s'appelle-t-il donc alors monsieur de Rubempré ? Demanda Jacques. Quand il travaille de ses mains, un noble doit quitter son nom. Il a effectivement quitté le sien qui était roturier, dit Zizine, et pour prendre celui de sa mère qui est noble. Puisque ces vers, en province on prononce verse, sont imprimés, nous pouvons les lire nous-mêmes, dit Astolphe. Cette stupidité compliqua la question jusqu'à ce que Sixte du Châtelet eût daigné dire à cette ignorante assemblée que l'annonce n'était pas une précaution oratoire et que ces belles poésies appartenaient à un frère royaliste du révolutionnaire Marie-Joseph Chénier. La société d'Angoulême, à l'exception de l'évêque de Madame de Rastignac et de ses deux filles, que cette grande poésie avait saisie, se crut mystifiée et s'offensa de cette supercherie. Un sourd murmure s'éleva, mais Lucien ne l'entendit pas. Isolé de ce monde odieux par l'enivrement que produisait une mélodie intérieure, il s'efforçait de la répéter et voyait les figures à travers un nuage. Il lut la sombre élégie sur le suicide, celle dans le goût ancien où respire une mélancolie sublime, puis celle où est ce vers. Tes vers sont doux, j'aime à les répéter. Enfin, il termina par la suave idylle intitulée Néère. Plongé dans une délicieuse rêverie, une main dans ses boucles qu'elle avait défraisées sans s'en apercevoir, l'autre pendant, les yeux distraits, seule au milieu de son salon, Madame de Bargeton se sentait pour la première fois de sa vie transportée dans la sphère qui lui était propre. Jugez combien elle fut désagréablement distraite par Amélie qui s'était chargée de lui exprimer les vœux publics. « Naïs, nous étions venus pour entendre les poésies de Monsieur Chardon et vous nous donnez des verses imprimés. Quoique ces morceaux soient fort jolis, par patriotisme, ces dames aimeraient mieux le vin du cru. » « Ne trouvez-vous pas que la langue française se prête peu à la poésie ?» dit Astolphe au directeur des contributions. « Je trouve la prose de Cicéron mille fois plus poétique. »« La vraie poésie française est la poésie légère, la chanson, » répondit du Châtelet. « La chanson prouve que notre langue est très musicale, » dit Adrien. « Je voudrais bien connaître les vers qui ont causé la perte de Naïs, » dit Zéphirine. « Mais d'après la manière dont elle accueille la demande d'Amélie, elle n'est pas disposée à nous en donner un échantillon. »« Elle se doit à elle-même de les lui faire dire, » répondit Francis, « car le génie de ce petit bonhomme est sa justification. »« Vous qui avez été dans la diplomatie, obtenez-nous cela, » dit Amélie à Monsieur du Châtelet. « Rien de plus aisé, » dit le baron. L'ancien secrétaire des commandements, habitué à ses petits manèges, alla trouver l'évêque et sut le mettre en avant. Prié par Monseigneur, Naïs fut obligé de demander à Lucien quelques morceaux qu'il sut par cœur. Le prompt succès du baron dans cette négociation lui valut un langoureux sourire d'Amélie.
« Décidément, ce baron est bien spirituel, » dit-elle à Lolotte.
Lolotte se souvenait du propos aigre-doux d'Amélie sur les femmes qui faisaient elles-mêmes leurs robes.
« Depuis quand reconnaissez-vous les barons de l'Empire ?» lui répondit-elle en souriant.
Lucien avait essayé de déifier sa maîtresse dans une ode qui lui était adressée sous un titre inventé par tous les jeunes gens au sortir du collège. Cette ode, si complaisamment caressée, embellie de tout l'amour qu'il se sentait au cœur, lui parut la seule œuvre capable de lutter avec la poésie de Chénier. Il regarda d'un air passablement fin Madame de Bargeton en disant « À elle !» Puis il se posa fièrement pour dérouler cette pièce ambitieuse, car son amour-propre d'auteur se sentit à l'aise derrière la jupe de Madame de Bargeton. En ce moment, Naïs laissa échapper son secret aux yeux des femmes. Malgré l'habitude qu'elle avait de dominer ce monde de toute la hauteur de son intelligence, elle ne put s'empêcher de trembler pour Lucien. Sa contenance fut gênée, ses regards demandèrent en quelque sorte l'indulgence. Puis, elle fut obligée de rester les yeux baissés et de cacher son contentement à mesure que se déployèrent les strophes suivantes. À elle, du sein de ces torrents de gloire et de lumière, où sur des sistres d'or les anges attentifs, au pied de Jéhovah redisent la prière de nos astres plaintifs. Souvent, un chérubin à chevelure blonde, voilant l'éclat de Dieu sur son front arrêté, laisse au parvis des cieux son plumage argenté et descend sur le monde. Il a compris de Dieu le bienfaisant regard, du génie aux abois il endort la souffrance, jeune fille adorée il berce le vieillard, dans les fleurs de l'enfance il inscrit des méchants les tardifs repentirs. À la mère inquiète il dit en rêve « Espère !» et le cœur plein de joie il compte les soupirs qu'on donne à la misère. De ces beaux messagers un seul est parmi nous. Que la terre amoureuse arrête dans sa route, mais il pleure et poursuit d'un regard triste et doux la paternelle voûte. Ce n'est point de son front l'éclatante blancheur qui m'a dit le secret de sa noble origine, ni l'éclair de ses yeux, ni la féconde ardeur de sa vertu divine. Mais par tant de lueurs, mon amour ébloui a tenté de s'unir à sa sainte nature, et du terrible archange il a heurté sur lui la pénétrable armure. Ah, gardez! Gardez bien de lui laisser revoir le brillant séraphin qui vers les cieux revole. Trop tôt, il en saurait la magique parole et qui se chante le soir. Vous le verriez alors, des nuits perçant les voiles, comme un point de l'aurore atteindre les étoiles par un vol fraternel. Et le marin qui veille, attendant un présage, de leurs pieds lumineux montrerait le passage comme un phare éternel. Comprenez-vous ce calembour ? Dit Amélie à Monsieur du Châtelet en lui adressant un regard de coquetterie.
C'est des vers comme nous en avons tous plus ou moins fait au sortir du collège, répondit le baron d'un air ennuyé pour obéir à son rôle de jugeur que rien n'étonnait. Autrefois, nous donnions dans les brumes océaniques. C'était des Malvinas, des Fingales, des apparitions nuageuses, des guerriers qui sortaient de leur tombe avec des étoiles au-dessus de leur tête. Aujourd'hui, cette friperie poétique est remplacée par Jéhovah, par les sistres, par les anges, par les plumes des séraphins. Par toute la garde-robe du paradis remise à neuf avec les mots immenses, infinis, solitude, intelligence. C'est des lacs, des paroles de Dieu, une espèce de panthéisme christianisé enrichi de rimes rares, péniblement cherchées, comme émeraude et fraude, aïeul et glaïeul, etc. Enfin, nous avons changé de latitude. Au lieu d'être au nord, nous sommes dans l'Orient, mais les ténèbres y sont tout aussi épaisses.
Si l'odeur est obscure, dit Zéphirine, la déclaration me semble très claire.
Et l'armure de l'archange est une robe de mousseline assez légère, dit Francis.
Quoique la politesse voulût que l'on trouvât ostensiblement l'aude ravissante à cause de Madame de Bargeton, les femmes, furieuses de ne pas avoir de poète à leur service pour les traiter d'anges, se levèrent comme ennuyées en murmurant d'un air glacial. Très bien, joli, parfait.
Si vous m'aimez, vous ne complimenterez ni l'auteur ni son ange, dit Lolotte à son cher Adrien d'un air despotique auquel il dut obéir.
Après tout, c'est des phrases, dit Zéphirine à Francis, et l'amour est une poésie en action.
Vous avez dit là, Zizine, une chose que je pensais, mais que je n'aurais pas aussi finement exprimée, répartit Stanislas en s'épluchant de la tête aux pieds par un regard caressant.
Je ne sais pas ce que je donnerais, dit Amélie à du Châtelet, pour voir rabaisser la fierté de Naïs qui se fait traiter d'archange comme si elle était plus que nous, et qui nous encanaille avec le fils d'un apothicaire d'une garde-malade dont la sœur est une grisette et qui travaille chez un imprimeur. puisque le père vendait des biscuits contre les verres, dit Jacques, il aurait dû en faire manger à son fils.
Il continue le métier de son père, car ce qu'il vient de nous donner me semble de la drogue, dit Stanislas en prenant une de ses pauses les plus agaçantes.
Drogue pour drogue, j'ai mis autre chose.
En un mot, chacun s'entendit pour humilier Lucien par quelques mots d'ironie aristocratique.
Lily, la femme pieuse, y vit une action charitable en disant qu'il était temps d'éclairer Naïs, bien prêt de faire une folie.
Francis, le diplomate, se chargea de mener à bien cette sotte conspiration à laquelle tous ces petits esprits s'intéressent comme au dénouement d'un drame et dans laquelle ils virent une aventure à raconter le lendemain. L'ancien consul, peu soucieux d'avoir à se battre avec un jeune poète qui, sous les yeux de sa maîtresse enragée d'un mot insultant, comprit qu'il fallait assassiner Lucien avec un fer sacré contre lequel la vengeance fut impossible. Il imita l'exemple que lui avait donné l'adroit du Châtelet quand il avait été question de faire dire des vers à Lucien. Il vint causer avec l'évêque en feignant de partager l'enthousiasme que l'hôte de Lucien avait inspiré à sa grandeur. Puis, il le mystifia en lui faisant croire que la mère de Lucien était une femme supérieure et d'une excessive modestie, qui fournissait à son fils les sujets de toutes ses compositions. Le plus grand plaisir de Lucien était de voir rendre justice à sa mère qu'il adorait. Une fois cette idée inculquée à l'évêque, Francis s'en remit sur les hasards de la conversation pour amener le mot blessant qu'il avait médité de faire dire par Monseigneur.
Quand Francis et l'évêque revinrent dans le cercle au centre duquel était Lucien, l'attention redoubla parmi les personnes qui déjà lui faisaient boire la ciguë à petits coups. Tout à fait étranger au manège des salons, le pauvre poète ne savait que regarder Madame de Bargeton et répondre gauchement aux gauches questions qui lui étaient adressées. Il ignorait les noms et les qualités de la plupart des personnes présentes, et il ne savait quelle conversation tenir avec des femmes qui lui disaient des niaiseries dont il avait honte. Il se sentait d'ailleurs à mille lieues de ces divinités angoumoisines en s'entendant nommer tantôt Monsieur Chardon, tantôt Monsieur de Rubempré, tandis qu'elle s'appelait Lolotte, Adrien, Astolphe, Lily, Fifine. Sa confusion fut extrême quand, ayant pris Lily pour un nom d'homme, il appela Monsieur Lily le brutal Monsieur de Sénonches. Le Némrod interrompit Lucien par un « Monsieur Lulu ?» qui fit rougir Madame de Bargeton jusqu'aux oreilles. « Il faut être bien aveuglé pour admettre ici et nous présenter ce petit bonhomme, » dit-il à demi-voix.
« Madame la marquise, » dit Séphirine à Madame de Pimentel à voix basse, mais de manière à se faire entendre, « ne trouvez-vous pas une grande ressemblance entre Monsieur Chardon et Monsieur de Cantecroix ?»«
La ressemblance est idéale, » répondit en souriant Madame de Pimentel.
« La gloire a des séductions que le pot avoué, » dit Madame de Bargeton à la marquise. « Il est des femmes qui s'éprennent de la grandeur comme d'autres de la petitesse, » ajouta-t-elle en regardant Francis.
Zéphirine ne comprit pas, car elle trouvait son consul très grand. Mais la marquise se rangea du côté de Naïs en se mettant à rire.
« Vous êtes bien heureux, monsieur, » dit à Lucien Monsieur de Pimentel, qui se reprit pour le nommer Monsieur de Rubempré après avoir l'appelé Chardon. « Vous ne devez jamais vous ennuyer.
Travaillez-vous promptement ?» lui demanda Lolotte de l'air dont elle lui dit à un menuisier « Êtes-vous longtemps à faire une boîte ?»
Lucien resta tout abasourdi sous ce coup d'assommoir. Mais il releva la tête en entendant Madame de Bargeton répondre en souriant « Ma chère, la poésie ne pousse pas dans la tête de Monsieur de Rubempré comme l'herbe dans nos cours. »«
Madame, » dit l'évêque à Lolotte, « nous ne saurions avoir trop de respect pour les nobles esprits en qui Dieu met un de ses rayons.
Oui, la poésie est chose sainte. Qui dit poésie dit souffrance. Combien de nuits silencieuses n'ont pas voulu les strophes que vous admirez.
Saluez avec amour le poète qui mène presque toujours une vie malheureuse et à qui Dieu réserve sans doute une place dans le ciel parmi ses prophètes.
Ce jeune homme est un poète, ajouta-t-il en posant la main sur la tête de Lucien. Ne voyez-vous pas quelque fatalité imprimée sur ce beau front?
Heureux d'être si noblement défendu, Lucien salua l'évêque par un regard suave, sans savoir que le digne prélat allait être son bourreau.
Madame de Bargeton lança sur le cercle ennemi des regards pleins de triomphe qui s'enfoncèrent comme autant de dards dans le cœur de ses rivales dont la rage redoubla.
« Ah, monseigneur, » répondit le poète en espérant frapper ces têtes imbéciles de son sceptre d'or,
« le vulgaire n'a ni votre esprit ni votre charité. Nos douleurs sont ignorées, personne ne sait nos travaux. Le mineur a moins de peine à extraire l'or de la mine que nous n'en avons à arracher nos images aux entrailles de la plus ingrate des langues. »
Si le but de la poésie est de mettre les idées au point précis où tout le monde peut les voir et les sentir, le poète doit incessamment parcourir l'échelle des intelligences humaines afin de les satisfaire toutes. Il doit cacher sous les plus vives couleurs la logique et le sentiment de puissances ennemies. Il lui faut enfermer tout un mode de pensée dans un mot, résumer des philosophies entières par une peinture. Enfin, ces vers sont des graines dont les fleurs doivent éclore dans les cœurs, en y cherchant les sillons creusés par les sentiments personnels. Ne faut-il pas avoir tout senti pour tout rendre, et sentir vivement, n'est-ce pas souffrir? Aussi, les poésies ne s'enfantent-elles qu'après de pénibles voyages entrepris dans les vastes régions de la pensée et de la société. N'est-ce pas les travaux immortels que ceux auxquels nous devons des créatures, dont la vie devient plus authentique que celle des êtres qui ont véritablement vécu, comme la Clarisse de Richardson, la Camille de Chénier, la Délie de Tibulle, l'Angélique de Larios, la Francesca di Dante, l'Alceste de Molière, le Figaro de Beaumarchais, le Rebecca de Walter Scott, le Don Quichotte de Cervantes. Et que nous créerez-vous? Demanda du Châtelet. Annoncer de telles conceptions, répondit Lucien, n'est-ce pas se donner un brevet d'homme de génie? D'ailleurs, ces enfantements sublimes ont une longue expérience du monde, une étude des passions et des intérêts humains que je ne saurais avoir faite. Mais je commence, dit-il avec amertume en jetant un regard vengeur sur ce cercle, le cerveau porte longtemps. Votre accouchement sera laborieux, dit monsieur du Hautoy en l'interrompant. Votre excellente mère pourra vous aider, dit l'évêque. Ce mot, si habilement préparé, cette vengeance attendue alluma dans tous les yeux un éclair de joie. Sur toutes les bouches, il courut un sourire de satisfaction aristocratique, augmenté par l'imbécilité de monsieur de Bargeton qui se mit à rire après coup. Monseigneur, vous êtes un peu trop spirituel pour nous en ce moment. Ces dames ne vous comprennent pas, dit madame de Bargeton, qui, par ce seul mot, paralysa les rires et attira sur elle les regards étonnés. Un poète qui prend toutes ses inspirations dans la Bible a, dans l'église, une véritable mère. Monsieur de Rubempré, dites-nous Saint Jean dans Patmos ou le Fessin de Balthazar, pour montrer à Monseigneur que Rome est toujours la magna parens de Virgile. Les femmes échangèrent un sourire en entendant Maïs dire les deux mots latins. Au début de la vie, les plus fiers courages ne sont pas exempts d'abattement. Ce coup avait envoyé tout d'abord Lucien au fond de l'eau, mais il frappa du pied et revint à la surface en se jurant de dominer ce monde. Comme le taureau piqué de 1000 flèches, il se releva furieux et allait obéir à la voix de Louise en déclamant Saint Jean dans Patmos. Mais la plupart des tables de jeu avaient attiré leurs joueurs qui retombaient de l'ornière de leurs habitudes en y trouvant un plaisir que la poésie ne leur avait pas donné. Puis la vengeance de tant d'amour propre irrité n'eût pas été complète sans le dédain négatif que l'on témoigna pour la poésie indigène en désertant Lucien et madame de Bargeton. Chacun parut préoccupé. Celui-ci alla causer d'un chemin cantonal avec le préfet. Celle-là parla de varier les plaisirs de la soirée en faisant un peu de musique. La haute société d'Angoulême, se sentant mauvais juge, en fait de poésie, était surtout curieuse de connaître l'opinion des Rastignac, des Pimentel sur Lucien, et plusieurs personnes allèrent autour d'eux. La haute influence que ces deux familles exerçaient dans le département était toujours reconnue dans les grandes circonstances. Chacun les jalousait et les courtisait, car tout le monde prévoyait avoir besoin de leur protection. « Comment trouvez-vous notre poète et sa poésie ?» dit Jacques à la marquise chez laquelle il chassait. « Mais pour des vers de province, dit-elle en souriant, ils ne sont pas mal. D'ailleurs, un si beau poète ne peut rien faire mal. » Chacun trouva l'arrêt adorable, et l'alla répéter en y mettant plus de méchanceté que la marquise n'y en voulait mettre. Du Châtelet fut alors requis d'accompagner monsieur de Bartas, qui massacra le grand air de Figaro. Une fois la porte ouverte à la musique, il fallut écouter la romance chevaleresque faite sous l'Empire par Chateaubriand, chantée par Châtelet. Puis vinrent les morceaux à quatre mains exécutés par des petites filles et réclamés par madame du Brossard qui voulait faire briller le talent de sa chère Camille aux yeux de monsieur de Sévrac. Madame de Bargeton, blessée du mépris que chacun marquait à son poète, rendit dédain pour dédain en s'en allant dans son boudoir pendant le temps que l'on fit de la musique. Elle fut suivie de l'évêque à qui son grand vicaire avait expliqué la profonde ironie de son involontaire épigramme et qui voulait la racheter. Mademoiselle de Rastignac, que la poésie avait séduite, se coula dans le boudoir à l'insu de sa mère. En s'asseyant sur son canapé à matelas piqué où elle entraîna Lucien, Louise put, sans être entendue ni vue, lui dire à l'oreille « Cher ange, ils ne t'ont pas compris, mais... tes vers sont doux, j'aime à les répéter. » Lucien, consolé par cette flatterie, oublia pour un moment ses douleurs. « Il n'y a pas de gloire à bon marché, lui dit madame de Bargeton en lui prenant la main et la serrant. « Souffrez, souffrez, mon ami, vous serez grand. » Vos douleurs sont le prix de votre immortalité. Je voudrais bien avoir à supporter les travaux d'une lutte. Dieu vous garde d'une vie atone et sans combat où les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d'espace. J'envie vos souffrances, car vous vivez au moins, vous. Vous déploierez vos forces. Vous espérerez une victoire. Votre lutte sera glorieuse. Quand vous serez arrivé dans la sphère impériale où trônent les grandes intelligences, souvenez-vous des pauvres gens déshérités par le sort dont l'intelligence s'annihile sous l'oppression d'un azote moral et qui périssent après avoir constamment su ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux perçants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont senti que des fleurs empestées. Chantez alors la plante qui se dessèche au fond d'une forêt, étouffée par des lianes, par des végétations gourmandes, touffues sans avoir été aimée par le soleil et qui meurt sans avoir fleuri. Ne serait-ce pas un poème, l'horrible mélancolie, un sujet tout fantastique? Quelle composition sublime que la peinture d'une jeune fille née sous les cieux de l'Asie, ou de quelques filles du désert transportées dans quelques froids pays d'Occident, appelant ce soleil bien-aimé, mourant de douleurs incomprises, également accablées de froid et d'amour. Ce serait le type de beaucoup d'existences. Vous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel, dit l'évêque. Un poème qui doit avoir été fait jadis. Je me suis plu à en voir un fragment dans le Cantique des Cantiques. Entreprenez cela, dit Lord de Rastignac en exprimant une naïve croyance au génie de Lucien. Il manque à la France un grand poème sacré, dit l'évêque. Croyez-moi, la gloire et la fortune appartiendront à l'homme de talent qui travaillera pour la religion. Il entreprendra, monseigneur, dit madame de Bargeton avec emphase. Ne voyez-vous pas l'idée du poème poignant, déjà comme une flamme de l'aurore dans ses yeux? Naïs nous traite bien mal, disait Fifine. Que fait-elle donc? Ne l'entendez-vous pas, répondit Stanislas. Elle est à cheval sur ces grands mots qui n'ont ni queue ni tête. Amélie, Fifine, Adrien et Francis apparurent à la porte du boudoir en accompagnant madame de Rastignac qui venait chercher sa fille pour partir. Naïs, dirent les deux femmes enchantées de troubler la partie du boudoir, vous seriez bien aimable de nous jouer quelques morceaux. Ma chère enfant, répondit madame de Bargeton, monsieur de Rubempré va nous dire son Saint Jean dans Patmos, un magnifique poème biblique. Biblique? Répéta Fifine étonnée. Amélie et Fifine rentrèrent dans le salon en y apportant ce mot comme une pâture à moquerie. Lucien s'excusa de dire le poème en objectant son défaut de mémoire. Quand il reparut, il n'excita plus le moindre intérêt. Chacun causait ou jouait. Le poète avait été dépouillé de tous ses rayons. Les propriétaires ne voyaient en lui rien de bien utile. Les gens à prétention le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance. Les femmes jalouses de madame de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le vicaire général, lui jetaient des regards froidement dédaigneux. Voilà donc le monde, se dit Lucien en descendant à l'Houmeau par les rampes de Beaulieu, car il est des instants dans la vie où l'on aime à prendre le plus long afin d'entretenir par la marche le mouvement d'idées où l'on se trouve et au courant desquelles on veut se livrer. Loin de le décourager, la rage de l'ambitieux repoussé donnait à Lucien de nouvelles forces. Comme tous les gens emmenés par leur instinct dans une sphère élevée où ils arrivent avant de pouvoir s'y soutenir, ils se promettaient de tout sacrifier pour demeurer dans la haute société. Chemin faisant, il ôtait un à un les traits envenimés qu'il avait reçus. Il se parlait tout haut à lui-même. Il gourmandait les niais auxquels il avait eu affaire. Il trouvait des réponses fines aux sottes demandes qu'on lui avait faites et se désespérait d'avoir ainsi de l'esprit après coup. En arrivant sur la route de Bordeaux qui serpente au bas de la montagne et côtoie les rives de la Charente, il crut voir, au clair de lune, Ève et David assis sur une solive au bord de la rivière près d'une fabrique et descendus vers eux par un sentier. Pendant que Lucien courait à sa torture chez madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de percaline rose à mille raies, son chapeau de paille cousue, un petit châle de soie. Mise simple, qui faisait croire qu'elle était parée comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehausse les moindres accessoires. Aussi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David. Quoique l'imprimeur se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Ève pour traverser l'Houmeau. L'amour se plaît dans ses respectueuses terreurs, semblable à celle que la gloire de Dieu cause aux fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont Sainte-Anne afin de gagner la rive gauche de la Charente. Ève, qui trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là jusqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. « La belle soirée !» dit-elle en cherchant un sujet de conversation. « L'air est à la fois tiède et frais, les fleurs embaument, le ciel est magnifique. »« Tout parle au cœur, » répondit David en essayant d'arriver à son amour par analogie. Il y a, pour les gens aimants, un plaisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme. La nature parle pour eux. Et elle leur délie aussi la langue, dit Eve en riant. Vous étiez bien silencieux en traversant l'houmeau. Savez-vous que j'étais embarrassée? Je vous trouvais si belle que j'étais saisie, répondit naïvement David. Je suis donc moins belle en ce moment? Lui demanda-t-elle. Non, mais je suis si heureux de promener seul avec vous que... Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route de Sainte. Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravie, car je me crois obligée à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. En refusant d'aller chez Madame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien en risquant de la fâcher par sa demande. Non, pas généreux, mais sage, répondit David. Puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autre témoin que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente, permettez-moi, chère Ève, de vous exprimer quelques-unes des inquiétudes que me cause la marche actuelle de Lucien. Après ce que je viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position. Mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances? Comment se soutiendra-t-il dans le monde où le porte ses goûts? Je le connais. Il est de nature à aimer les récoltes sans le travail. Les devoirs de société lui dévoreront son temps, et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune. Il aime à briller. Le monde héritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire. Il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas. Enfin, vous l'avez habitué à se croire grand, mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquièrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera Madame de Bargeton à votre frère en retour de tant de journées passées à ses pieds? Lucien est trop fier pour accepter ses secours, et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société qui est doublement ruineuse. Tôt ou tard, cette femme abandonnera notre cher frère après lui avoir fait perdre le goût du travail, après avoir développé chez lui le goût du luxe, le mépris de notre vie sobre, l'amour des jouissances, son penchant à l'oisiveté, cette débauche des âmes poétiques. Oui, je tremble que cette grande dame ne s'amuse de Lucien comme d'un jouet. Ou elle l'aime sincèrement et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra malheureux car il en est fou. Vous me glacez le cœur, dit Ève en s'arrêtant au barrage de la Charente. Mais tant que ma mère aura la force de faire son pénible métier, et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peut-être aux dépenses de Lucien, et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencera. Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, dit Ève en s'animant, ôte au travail toute son amertume et ses ennuis. Je suis heureuse en songeant pour qui je me donne tant de peine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craignez rien, nous gagnerons assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune.
Là est aussi sa perte, reprit David. Écoutez-moi, chère Ève. La lente exécution des œuvres du génie exige une fortune considérable, tout venue, ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyez-moi, Lucien a une si grande horreur des privations de la misère, il a si complaisamment savouré l'arôme des festins, la fumée des succès. Son amour-propre a si bien grandi dans le boudoir de Madame de Bargeton qu'il tentera tout plutôt que de déchoir. Et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins.
Vous n'êtes donc qu'un faux ami, s'écria Ève désespérée. Autrement, vous ne les décourageriez pas ainsi.
Ève, Ève, répondit David, je voudrais être le frère de Lucien. Vous seul pouvez me donner ce titre qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui avec le saint amour que vous mettez à vos sacrifices, mais en y portant le discernement du calculateur. Ève, cher enfant aimé, faites que Lucien ait un trésor où il puisse puiser sans honte. La bourse d'un frère ne sera-t-elle pas comme la sienne? Si vous saviez toutes les réflexions que m'a suggérées la position nouvelle de Lucien. S'il veut aller chez Madame de Bargeton, il ne doit plus être mon prote. Il ne doit plus loger à l'houmeau. Vous ne devez plus rester ouvrière, votre mère ne doit plus faire son métier. Si vous consentiez à devenir ma femme, tout s'aplanirait. Lucien pourrait demeurer au second chez moi pendant que je lui bâtirais un appartement au-dessus de la pentille au fond de la cour, à moins que mon père ne veuille élever un second étage. Nous lui arrangerions ainsi une vie sans souci, une vie indépendante.
Mon désir de soutenir Lucien me donnera pour faire fortune un courage que je n'aurais pas s'il ne s'agissait que de moi. Mais il dépend de vous d'autoriser mon dévouement. Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se produire et où ses talents seront appréciés et rétribués. La vie de Paris est chère, et nous n'essaierons pas trop de Troie pour l'y entretenir. D'ailleurs, à vous comme à votre mère, ne faudrait-il pas un appui? Cher Ève, épousez-moi par amour pour Lucien. Plus tard, vous m'aimerez peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre heureuse. Nous sommes tous deux également modestes dans nos goûts. Il nous faudra peu de choses. Le bonheur de Lucien sera notre grande affaire et son cœur sera le trésor où nous mettrons fortune, sentiments, sensations, tout. Les convenances nous séparent, dit Ève émue en voyant combien ce grand amour se faisait petit. Vous êtes riche et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté. Vous ne m'aimez donc pas assez encore ? S'écria David atterré. Mais votre père s'opposerait peut-être ? Bien, bien, répondit David. S'il n'y a que mon père à consulter, vous serez ma femme. Ève, ma chère Ève, vous venez de me rendre la vie bien facile à porter en un moment. J'avais hélas ce cœur bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savais exprimer. Dites-moi seulement que vous m'aimez un peu, je prendrai le courage nécessaire pour vous parler de tout le reste. En vérité, dit-elle, vous me rendez tout honteuse. Mais puisque nous nous confions nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. J'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir, et je n'osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande destinée. Assez, assez, dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus, car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace. Qu'avez-vous ? Lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gracieuse que les femmes éprouvent pour un être qui leur appartient. Rien que de bon, dit-il, en apercevant toute une vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. Pourquoi suis-je le plus heureux ? Dit-il avec une expression de mélancolie. Mais je le sais. Ève regarda David d'un air coquet et douteur qui voulait une explication. « Chère Ève, je reçois plus que je ne donne. Aussi vous aimerai-je toujours mieux que vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raisons de vous aimer. Vous êtes un ange et je suis un homme. » « Je ne suis pas si savante, répondit Ève en souriant. Je vous aime bien. » « Autant que vous aimez Lucien, dit-il en l'interrompant. Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous et tâcher de ne vous donner aucune peine dans la vie, d'abord un peu pénible que nous mènerons. Vous êtes-vous aperçu, chère Ève, que je vous ai aimée depuis le premier jour où je vous ai vue? Quelle est la femme qui ne se serait pas aimée? Redemanda-t-elle. Laissez-moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. Je suis pauvre, ma chère Ève, oui. Mon père a pris plaisir à me ruiner, il a spéculé sur mon travail. Il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceci n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défauts, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropre à tout ce qui est commerce et spéculation. Et cependant, nous ne pouvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de découvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous, qui par amour pour votre frère êtes descendu au plus petit détail, qui avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commerçant, vous récolterez la moisson que j'aurai semée. Notre situation, car depuis longtemps je me suis mis au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'une découverte lucrative. Je ne puis vous en rien dire encore, je prévois trop de lenteur. Nous souffrirons pendant quelques années, peut-être, mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desquels je suis depuis quelques jours, et qui nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout. Il convertirait mes espérances en réalité. Il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi, gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces longues épreuves, comme le désir de vous enrichir, vous et Lucien, me donnera de la constance et de la ténacité.
J'avais deviné aussi, lui dit Ève en l'interrompant, que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux. Vous m'aimez donc? Ah, dites-le-moi sans crainte, à moi qui ai vu dans votre nom un symbole de mon amour. Ève était la seule femme qu'il y eut dans le monde, et ce qui était matériellement vrai pour Adam l'est moralement pour moi. Mon Dieu, m'aimez-vous?
Oui, dit-elle en allongeant cette simple syllabe par la manière dont elle la prononça comme pour peindre l'étendue de ses sentiments.
Eh bien, asseyons-nous là, dit-il en conduisant Ève par la main vers une longue poutre qui se trouvait au bas des roues d'une papeterie. Laissez-moi respirer l'air du soir, entendre les cris des rainettes, admirer les rayons de la lune qui tremblent sur les eaux. Laissez-moi m'emparer de cette nature où je crois voir mon bonheur écrit en toutes choses et qui m'apparaît pour la première fois dans sa splendeur, éclairée par l'amour, embellie par vous. Ève, chère aimée, voici le premier moment de joie sans mélange que le sort m'ait donné. Je doute que Lucien soit aussi heureux que moi. En sentant la main d'Ève humide et tremblante dans la sienne, David y laissa tomber une larme. Ce fut en ce moment que Lucien aborda sa sœur.